Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de peur. Face à un danger, on peut toutes et tous ressentir de la peur. Certaines personnes fuient la menace, alors que d'autres aiment se faire peur. Il s'agit d'une émotion fondamentale. Autrement dit, elle est universelle, inévitable et nécessaire. La peur est toujours liée à quelque chose de particulier dans nos vies. En mars, j'ai passé une journée à Bordeaux. Avant de monter dans le train pour rentrer chez moi, je suis passée par un marchand de journaux et j'ai acheté un magazine. C'est le titre sur la une, sur la première page, qui a attiré mon attention. Pourquoi nous aimons la peur ? Comme tout le monde, il y a des peurs que je trimballe avec moi depuis longtemps. Trimballer quelque chose, ça veut dire porter, transporter quelque chose avec soi. Depuis que je suis petite, je ne supporte pas les araignées. Ça, c'est une petite peur. J'en ai d'autres qui sont plus profondes, comme la peur de l'échec. Parfois, je repousse le moment d'écrire les épisodes de ce podcast, parce que j'ai peur de la page blanche. Je vous avoue que c'est un peu le cas cette semaine. La peur est un sujet tellement vaste. Ça me rappelle le philosophe allemand Martin Heidegger. Il dit que l'angoisse est générée parce qu'il y a une infinité de possibilités. C'est ça qui nous donne le vertige. Alors, on va essayer de répondre à une question simple. À quoi sert la peur ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? D'abord, on va s'intéresser au fonctionnement de la peur, à ce que les scientifiques et les philosophes nous disent à son sujet. Puis, on va se demander pourquoi certains aiment la peur. Et enfin, on va explorer quelques pistes de réflexion pour faire face à ces peurs. Plus que le terme « affronter », j'aime l'idée d'aller à la rencontre de ces peurs. Pour commencer, on va donc réfléchir au fonctionnement de la peur. Qu'est-ce que les neuroscientifiques nous disent sur cette émotion, sur ce qui la provoque, sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on a la trouille? Avoir la trouille, c'est une autre manière de dire avoir peur. Il y a même une expression plus intense. Avoir une trouille bleue de quelque chose ou de quelqu'un. Ça signifie être terrifié. Pour reprendre une phrase que j'ai entendue dans un podcast, le cœur des émotions est au cœur du cerveau. En gros, il y aurait trois circuits de la peur. On retrouve le premier circuit chez l'ensemble des mammifères, aussi bien chez les êtres humains que chez les chats, par exemple. Face à une menace soudaine, on reçoit un signal. Et s'il y a un danger, ça va automatiquement entraîner un certain nombre de réactions physiques. Vous avez certainement remarqué que dans certaines situations, vos poils se dressent sur vos bras. En français, on dit aussi « avoir la chair de poule ». La chair de poule, c'est une expression qui décrit cette réaction physique qui se produit quand on a peur ou quand on a froid. Pour le deuxième circuit, les neuroscientifiques parle de circuits longs. Là encore, tout commence par un signal. Dans ce cas, le signal passe par la zone du cerveau qui gère le raisonnement. Ce circuit de la peur fait appel à nos souvenirs pour replacer le danger dans son contexte. Une situation assez classique pour illustrer ça, quand vous vous promenez dans une forêt et que vous sursautez en voyant quelque chose par terre, assez vite, vous réalisez que cette chose, c'est un bâton qui est tombé sur le sol, et non un animal dangereux, comme un serpent. Sursauter, c'est le fait de sauter, ou plutôt de faire un mouvement brusque quand on est surpris. Il existe enfin un troisième circuit de la peur. C'est le circuit de l'angoisse. Dans cette situation, il n'y a même pas besoin d'avoir un signal extérieur. On le fabrique soi-même, à partir de notre imagination et de nos souvenirs. Et pourtant, juste avec l'angoisse, on est capable de ressentir les mêmes réactions physiques que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Concrètement, je sais que, plus d'une fois, j'ai eu l'estomac noué. J'ai ressenti cette angoisse avant un examen important à passer, par exemple. Pour dire les choses très simplement, la peur emprunte plusieurs chemins dans notre cerveau. Un circuit court et un circuit long. Dans une situation où on a peur, notre corps va produire des hormones spécifiques. Je pense à l'adrénaline. Selon le Centre d'études sur le stress humain, qui est situé à Montréal, au Canada, l'adrénaline, c'est l'hormone guerrière qui stimule les battements cardiaques, la respiration et la circulation sanguine vers les muscles. Le cortisol est une autre hormone qui va venir aider l'adrénaline à maintenir un niveau d'énergie suffisamment élevé pendant une période plus longue. Le cortisol et l'adrénaline sont les hormones du stress. Quand tout fonctionne bien dans notre organisme, l'adrénaline permet de délivrer une énergie importante et rapide face à un stress aigu et court. Alors que le cortisol intervient lorsque le stress est chronique et prolongé. Il aide l'organisme à faire face à cette situation en mobilisant l'énergie nécessaire et supplémentaire pour alimenter les muscles, le cerveau, mais aussi le cœur. Maintenant qu'on a parlé des neurosciences, je vous propose d'aller voir du côté des philosophes. La philosophie fait une distinction importante entre la peur et l'angoisse. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la peur est toujours liée à quelque chose de particulier. Au contraire, l'angoisse n'est pas liée à une chose présente, à un phénomène qu'on peut percevoir. C'est une menace vague, une menace qu'on fabrique soi-même. Autrement dit, on ressent de la peur face à un signal extérieur. Mais l'angoisse se cristallise autour de quelque chose qu'on crée soi-même, qui vient de l'intérieur, qui est dû à l'inconnu, à des interrogations qu'on peut avoir. Quand je dis que l'angoisse se cristallise autour d'une menace vague, ça signifie qu'elle se focalise sur ça. La spécificité de l'angoisse, c'est son lien avec les situations incertaines. Pour les philosophes, il n'y a pas de relation entre peur et plaisir. On pourrait même dire qu'ils la voient comme un danger. Ils ont peur de la peur. En fait, ils ont une vision double de cette émotion. D'une part, la peur est une des passions les plus caractéristiques de notre humanité. Les êtres humains ne vivent pas éternellement, ils sont donc confrontés à la peur de la mort, tout au long de leur vie. D'autre part, la peur, c'est ce qui menace le plus notre sagesse, notre bonheur et notre liberté. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Mais avant ça, on pourrait se dire que la peur est pratique dans certaines situations. C'est le signal qu'il y a un danger. Elle nous empêche de faire n'importe quoi et nous permet de percevoir nos limites. Cependant, elle peut également devenir envahissante. Quelque chose d'envahissant, c'est quelque chose qui se répand et qu'on ne peut pas contenir. Ce mot vient de la même famille que le verbe « envahir ». La peur peut paralyser notre réflexion. Dans ses pensées, le philosophe Pascal parle du vertige. Imaginez l'exemple de quelqu'un qui a peur du vide et qui doit traverser un pont. Même si cette personne sait que le pont est solide et qu'il ne va pas s'effondrer, ça ne l'empêche pas d'avoir le vertige. Pascal nous explique que le savoir ne suffit pas à faire disparaître une peur. La peur peut malgré tout brouiller notre capacité à réfléchir, à raisonner. Brouiller, ça veut dire perturber. Dans la philosophie, la peur vient aussi troubler la tranquillité de notre âme. Chez Épicure, il y a toute une réflexion sur le dépassement de nos peurs. On ne peut pas les faire disparaître, mais on peut, peut-être, limiter leurs effets. Pour lui, ça passe par le fait de mener une existence fondée sur le plaisir, de prendre plaisir à vivre. La philosophie antique nous invite à mener une vie libérée de la peur. À notre époque, la peur est utilisée pour manipuler les gens, pour justifier des guerres. Elle devient une stratégie politique. Les philosophes nous invitent à prendre un peu de recul, à lutter contre la peur et les dangers qu'elle représente, selon eux. Ils nous invitent à travailler la confiance en soi et la confiance en les autres. En somme, toute émotion est un signal. La peur est un système d'alarme précieux face aux dangers de la vie. Elle a des inconvénients, bien sûr, mais elle peut nous inspirer une forme de sagesse. Elle incite en même temps à la vigilance et à la prudence. Dans cet épisode, la question qu'on se pose, c'est à quoi sert la peur ? Je parle d'une peur « normale », entre guillemets. Celle qu'on peut contrôler, celle qui nous protège face à un danger. La peur phobique, celle qui peut entraîner une attaque de panique, c'est un autre sujet. Comprendre à quoi sert la peur, c'est aussi comprendre les origines de cette émotion. J'ai l'impression que, de nos jours, on vit dans une culture où chaque sentiment mauvais est perçu comme un problème, comme quelque chose dont on devrait se débarrasser. La peur et l'angoisse, ce sont des sentiments négatifs qui font partie de la vie. D'ailleurs, cette semaine, je me suis fait une petite frayeur. La frayeur, l'anxiété, l'angoisse, la panique, la pétoche, tous ces mots évoquent la peur. Récemment, j'ai recommencé à conduire. Je pense que ça faisait plus de 8 ans que j'avais pas touché à une voiture. J'ai pas peur de conduire. Par contre, avoir un accident, ça me fait un peu peur. C'est une peur assez commune, j'imagine. Et l'autre jour, je me suis fait peur toute seule. J'ai cru que j'allais rentrer dans une autre voiture, mais finalement, non. L'histoire s'est bien terminée, et cette petite frayeur m'a rappelé l'importance d'être toujours prudent quand on est derrière le volant. Le volant, c'est ce qui vous permet de diriger votre voiture. D'ailleurs, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est assez incroyable de voir comment on garde des réflexes, même si on pensait qu'on avait tout oublié. Je retrouve ça aussi avec l'apprentissage des langues. La semaine dernière, j'ai revu une élève qui avait fait une longue pause. À la fin de notre conversation, elle était presque surprise de ne pas avoir perdu sa capacité à communiquer en français. Pour revenir à notre sujet, ressentir de la peur, être angoissé, ça fait partie de la condition humaine. Dans cette deuxième partie, on va parler des personnes qui aiment la peur. Je pense aux aventuriers, aux sportifs qui aiment se confronter à la peur, éprouver des sensations fortes en se mettant dans des situations extrêmes. Et puis, je pense plus spécifiquement aux personnes qui aiment se faire frissonner en regardant des films d'horreur ou en lisant des romans qui racontent des histoires horribles. Frissonner, ici, ça veut dire trembler de peur. Quand j'étais adolescente, il y avait une série de romans très populaires pour les jeunes. Ça s'appelait « Chair de poule ». J'adorais ces livres, et j'en ai plein chez moi, encore aujourd'hui. Je crois que l'auteur est américain, donc j'imagine que ça s'appelle « Goosebumps » en anglais. Si vous étiez adolescent dans les années 90, vous connaissez peut-être. Par contre, j'ai toujours été réticente à regarder des films d'horreur. Être réticent à quelque chose, ça signifie être opposé, à quelque chose. À votre avis, comment expliquer qu'on aime se faire peur? C'est une question intéressante à se poser. Dans le magazine que j'ai acheté, celui qui réfléchit à pourquoi nous aimons la peur, il y a un entretien avec Franck Tillier. Franck Tillier est un maître du thriller en France. Il écrit des romans à suspense. Dans cet entretien, il souligne que nous vivons dans une période particulièrement anxiogène. Et il se pose la question suivante. Pourquoi rentrer dans une librairie et choisir un livre truffé de choses horribles? Un livre truffé de choses horribles, c'est un livre rempli d'histoires qui font froid dans le dos, c'est-à-dire qui font très peur. Selon lui, et je le cite, « Notre espèce a un besoin fondamental de se confronter à la peur. Cette peur du danger, c'est ce qui nous a maintenus en vie jusque-là. Cette émotion est toujours présente à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, on vit quand même dans un monde relativement sécurisé et on fait moins l'expérience de cette peur profonde liée à notre survie. Pour Franck Tillier, lire des livres qui font peur, regarder des films d'horreur, c'est un moyen de faire surgir cette émotion primitive, de se confronter à cet instinct de survie. En préparant cet épisode, je me suis demandé quel est le premier livre qui m'a effrayée. J'ai tout de suite pensé aux contes de fées de mon enfance. Un conte de fées, ça décrit une histoire légendaire ou merveilleuse. Il met en scène des personnages ou des événements fantastiques. Je me souviens par exemple de l'histoire des trois petits cochons ou de celle du chaperon rouge. Les contes sont effrayants. Ils nous confrontent à la peur dès qu'on est tout petit. D'une certaine manière, ils nous préparent à vivre dans un monde où la peur est souvent présente. Quand je pense aux livres qui m'ont terrifiée, ça me renvoie à différentes étapes de la vie. Et j'ai forcément une pensée pour les romans de Stephen King, cet écrivain américain. Il est vraiment un maître en la matière. En la matière, ça veut dire « dans ce domaine ». Stephen King dit que le monstre qui nous fait le plus peur, c'est celui qui nous ressemble. Et, effectivement, ces histoires qui font peur nous interrogent sur la nature humaine, sur les monstres qui se cachent parmi nous. Je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant que cette petite phrase, d'après une histoire vraie. J'ai posé la question à quelques personnes dans mon entourage, des personnes qui aiment les histoires à suspense. Je leur ai demandé « qu'est-ce qui te plaît dans ce type d'histoire ?» Ils ont tous évoqué une expérience riche en émotions. C'est un peu la même chose avec les montagnes russes. On sait qu'il y a un danger, mais qu'on est protégé. Certains aiment cette expérience d'une émotion brute, d'une montée d'adrénaline, d'une peur sécurisée. C'est exactement la même chose quand on regarde un film. Cette peur nous plaît et on la contrôle. Si on veut s'arrêter d'avoir peur, on éteint la télé ou l'ordinateur et ça s'arrête. Avec le temps qui nous reste, on va finir en explorant quelques pistes de réflexion pour faire face à ces peurs. C'est vrai que la peur est une émotion mal aimée. J'entends souvent des discours qui invitent les gens à refuser leur peur. Dans un podcast que j'ai écouté, l'invité explique qu'il n'aime pas le terme « affronter ». Il préfère utiliser l'expression « rencontrer ses peurs ». J'aime bien cette idée, l'idée d'aller à la rencontre de ses peurs et d'avancer avec elles. Le vide, les araignées, l'accident, la foule, l'échec, la peur peut prendre plein de visages différents dans la vie quotidienne. Dans cette dernière partie, je voulais en quelque sorte plaider pour la peur. Quand je dis plaider, ça signifie défendre. En tout cas, je voulais vous inviter à réfléchir à ce que la peur peut nous apporter. Avec la colère, la tristesse, la joie et la honte, la peur est une émotion fondamentale. Autrement dit, c'est une réaction face à un changement dans notre environnement. on a besoin de la peur. Elle représente un signal d'alarme qui facilite notre vigilance, notre prudence face au danger. Et ainsi, elle augmente nos chances de survie. Dans un livre qui s'appelle « Psychologie de la peur », le psychiatre Christophe André partage quelques conseils pour lutter contre ces peurs, pour apprendre à les apprivoiser. Dans « Apprivoiser », il y a l'idée de reprendre le contrôle sur ces peurs, de les adoucir. Par exemple, il suggère de s'informer vraiment sur ce qui nous fait peur. Face à nos craintes, il y a souvent des réponses rationnelles. Il nous invite à réfléchir à notre peur, à son histoire et à sa fonction. Selon lui, la méditation est une alliée précieuse pour mieux comprendre ses peurs. Elle nous aiderait à reconnaître nos peurs, les accueillir et accepter leur présence. Christophe André voit cet exercice comme une manière d'explorer la peur, sans lui obéir, sans se soumettre à elle. Je crois surtout que, pour apprivoiser ses peurs, c'est important d'aller à leur rencontre le plus régulièrement possible. Parler de peur, c'est aussi parler de courage. Je pense pas qu'avoir peur, c'est manquer de courage. Au contraire, le courage de faire face à ses peurs, jour après jour, le fait de s'entourer de personnes bienveillantes qui nous encouragent sur notre chemin, c'est ce qui nous aide à avancer dans l'apprentissage, et plus largement, dans la vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et que ça vous aura permis de réfléchir un peu sur votre relation à la peur. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !